Un écrivain de la fin du 19e siècle, qui s'appelait Taine, disait que la France n'était pas une nation normale. Et il disait qu'elle n'était pas une nation normale parce qu'il voulait dire que c'est un pays où l'État a une place particulière et c'est quelque chose qui distingue notre démocratie des autres pays. Et c'est quelque chose dont De Gaulle a été conscient très tôt. Et De Gaulle, le général De Gaulle, à différents moments de sa carrière, quand il a gouverné la France, à la fin de la guerre et à partir de 1958, a toujours accordé une importance particulière à l'État. Donc je pense qu'il faut essayer de comprendre ce que De Gaulle voulait dire par cette importance de l'État qui aujourd'hui est un enjeu du débat public important. Aujourd'hui en France, on dit beaucoup que l'État est trop fort, que l'État pèse trop lourd dans la vie économique, que l'État a trop d'importance, qu'il retarde le progrès, qu'il étouffe les individus. Et c'est un sujet qui n'est pas si présent dans les autres pays. Alors pourquoi en France, il y a ce rapport particulier à l'État et pourquoi De Gaulle a-t-il cherché à le dénouer? Je pense qu'il faut essayer de remettre les choses un petit peu en perspective pour comprendre cela, parce que De Gaulle est quelqu'un qui arrive dans la vie publique au moment où la France connaît des transformations profondes dans les années 30 et 40 avec la guerre. La France, je disais, n'est pas une nation normale, parce que depuis la Révolution française, et depuis le Consulat et l'Empire surtout, l'État a pris une importance dans la société qu'aucun autre pays n'a connue à ce point. La France a vécu pendant des siècles sous la monarchie, et pendant les deux derniers siècles, 17e et 18e siècle, sous la monarchie absolue, avec un souverain, et ce souverain a été décapité en 1793, il y a eu une période de révolution qui a duré plusieurs années, puis est venu Bonaparte, le 18 Brumaire, le consulat, et toute une construction extraordinaire, le code civil, les préfets, l'État dans sa version la plus moderne, que Bonaparte a installé, ce qu'il appelait les masses de granit qu'il avait jetées sur le sol fuyant qu'il sentait sous ses pieds, qui était le sol de la Révolution. Et c'est pour cela que, dans un pays qui avait rompu avec la prépondérance de l'Église, dans un pays qui avait rompu brutalement avec la monarchie, l'État est devenu quelque chose de très important en France, de beaucoup plus important qu'ailleurs. Et l'histoire de France, De Gaulle le disait d'ailleurs, il disait qu'on avait usé de 14 ou 15 régimes différents en l'espace de 130 ou 150 ans. La France a vécu pendant plusieurs décennies comme aucune autre démocratie n'a vécu, c'est-à-dire qu'elle a vécu en expérimentant toutes sortes de constitutions et de régimes. Après Napoléon, nous avons connu des expériences de monarchie, de nouveau, de monarchie constitutionnelle. Nous avons connu à nouveau une formule impériale avec le Second Empire. Nous avons connu plusieurs républiques, la seconde, la troisième, la quatrième. Et finalement, ce qui a donné à la France une certaine stabilité, c'est cet État, c'est-à-dire cette administration puissante qui nous avait été léguée par Napoléon. Et c'est cela que De Gaulle va trouver en réalité quand il va devenir un personnage public, qu'il commence à devenir un personnage public dans les années 30, parce que dans les années 30, la France est une démocratie, mais une démocratie avec un système politique faible, une forte instabilité ministérielle, et dont la force vient de cette administration puissante. C'est un personnage, l'État. L'historien célèbre allemand Ernst Kantorowicz avait dit que le roi avait deux corps, un corps provisoire, un corps temporaire, qui est le corps humain, le corps du roi, son corps physique, qui meurt. Louis XIV, quand il est mort, disait que son corps mortel disparaissait, mais que le deuxième corps du roi, c'était l'État. C'est quelque chose qui restait, l'administration, la puissance administrative. Et Louis XIV, plus que l'État c'est moi, avait dit « Je meurs, mais l'État me survit ». Et donc, le deuxième corps du roi, c'est l'État, et c'est cette singularité que la France connaissait dans les années 30, c'est-à-dire un système politique faible au moment où les dictatures, les régimes totalitaires étaient en train d'émerger en Europe, et une administration très puissante. Et De Gaulle a vu, en 1940, ce système s'effondrer subitement, c'est-à-dire avec l'invasion allemande, l'offensive allemande de mai 40, on a vu cette chose incroyable, cette France que l'on croyait puissante, cette France qui était la France de l'Empire, qui avait la France de 100 millions d'habitants, qui avait un empire colonial, cette France qui avait gagné douloureusement, mais qui avait gagné la Première Guerre mondiale, cette France s'effondre en quelques semaines, en 1940, et De Gaulle va être frappé par cela, par cet effondrement subi. Et une des raisons pour lui de cet effondrement, c'est cette faiblesse structurelle de la France qui a un système politique faible, compensé par une administration puissante. Et pour De Gaulle, l'État, c'est plus que l'administration. Pour De Gaulle, l'État, c'est un régime politique fort et une administration forte. Donc De Gaulle considérait, il faut voir la vision de De Gaulle comme celle, il voit la France, le système français, comme un attelage, avec deux chevaux. C'est une image que l'écrivain Jean Giraudoux avait évoquée à cette époque. C'est un attelage avec deux chevaux, mais il y avait un des chevaux, qui est le cheval administration, État, qui avançait, et puis un cheval, un des membres de l'attelage, le cheval politique, qui traînait, qui faisait que le char de la démocratie avançait lentement et mal. Donc De Gaulle, son idée, ça va être de restructurer complètement notre système politique et administratif en faisant de l'État dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois comme constitution politique et comme système administratif, quelque chose de fort. Il va être obsédé par l'idée des institutions. Il faut le comprendre parce que De Gaulle a été formé, il est né en 1890, il a fait la guerre de 14, et son premier livre, il paraît en 1924, il s'appelle « La discorde chez l'ennemi ». Et c'est une analyse de la façon dont l'Empire allemand s'est effondré en 1918. Il considère qu'en 1918, l'Allemagne a perdu la guerre, en 18, mais c'est surtout que tout le système allemand s'est effondré d'un coup. Et donc De Gaulle est très frappé par cela et il se dit que les nations et les systèmes politiques sont fragiles. Et il voit se reproduire en 1940 le même phénomène avec le système français qui s'effondre, les élites qui démissionnent, l'armistice qui est signé, la Troisième République qui se suicide et qui remet les pleins pouvoirs entre les mains du maréchal Pétain. Donc, véritablement, l'homme qui va diriger la résistance, c'est quelqu'un qui a en tête non seulement l'aspect militaire, il faut libérer la France, donc il faut qu'il y ait des mouvements de résistance organisés en France qui permettent de préparer le jour venu l'arrivée des alliés, le débarquement des alliés. Donc cette idée que la résistance est une lutte armée, la France a été vaincue une première fois en 1940, mais elle doit organiser sa revanche, elle doit retrouver le chemin de la victoire grâce à la résistance intérieure qui pourra unir ses efforts le moment venu à l'intervention des alliés lorsqu'ils débarqueront sur le sol français. Mais pour De Gaulle, et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette vision n'est pas seulement une vision militaire ou une vision romantique de la résistance. Pour lui, la résistance, c'est préparer ce qui va venir après. Je disais que la France avait vécu toute une série d'expériences constitutionnelles, d'échecs constitutionnels au XIXe siècle, et pendant la première moitié du XXe siècle. De Gaulle veut en finir et veut donc que la France retrouve un système, un État dans sa plénitude, un système politique et une administration soudée avec le système politique qui permettent de faire de grandes réformes. Et donc, pendant toute la période de la guerre, pendant toute la période de la résistance, De Gaulle va réfléchir à ce que sera la France d'après la guerre. Et cette France, ce sera des institutions, ce sera une réorganisation. Il faut vraiment prendre ça vraiment en compte, parce que la résistance, on l'imagine un peu comme des maquisards, et c'est vrai, des maquisards ou des gens qui préparent dans la clandestinité la libération du territoire. Mais les résistants, ce sont aussi des professeurs qui réfléchissent aux futures institutions, notamment des professeurs expérimentés qu'on appelait les neuf sages de la résistance et qui préparaient la France de l'après-guerre. Et puis ce sont des gens comme Jean Moulin. Jean Moulin, qui est la figure emblématique de la résistance, c'est un préfet. C'est un préfet, et nous avons de lui une image héroïque. Il meurt torturé sans avoir parlé, comme dira Malraux. C'est vraiment l'incarnation du courage et de la résistance. Mais pourquoi De Gaulle l'envoie en France? Il l'envoie évidemment pour prendre la direction de la résistance, mais il lui dit: j'attends de vous que vous organisiez la résistance et que, en quelque sorte, vous l'organisiez de façon à ce que nous préparions déjà l'après-guerre et la sortie de la guerre. Donc, c'est vraiment important de le comprendre. De Gaulle est quelqu'un qui s'est battu en 1940 et qui a conduit la résistance et l'idée de reconquête dans cette idée qu'il fallait reconstruire l'État, reconstruire la France, parce que la France était d'abord un État, et une démocratie pour lui, c'est un État organisé avec, encore une fois, un système politique solide, puissant, et un système administratif solide, puissant, efficace. C'est ça la genèse de ce qui va être le gouvernement provisoire de la République française en 1944-1945, et qui est véritablement la première étape qui permet à De Gaulle de reconstruire l'État. Et pour De Gaulle, reconstruire l'État, c'est construire la démocratie. De Gaulle considère que la démocratie est inachevée en France, parce qu'un pays qui n'est pas suffisamment fort, qui est suffisamment faible pour s'effondrer comme il s'est effondré en 1940, c'est que sa démocratie n'est pas achevée. Donc pour que la démocratie soit achevée, il faut qu'il y ait un régime libre, des élections libres, et il va le montrer en étendant le suffrage universel aux femmes, un véritable suffrage universel plein et entier, un suffrage universel dans sa plénitude. Il faut une institution parlementaire, il faut un exécutif, mais il faut un ensemble qu'il appelle l'État et qui, pour lui, doit être moderne, énergique, parce que sinon, il n'y a pas de démocratie. Une démocratie qui est faible est condamnée à disparaître. Une démocratie doit être forte. Ça, c'est une obsession chez De Gaulle, et de même que la résistance, pour lui, ce n'était pas simplement une série d'actions, d'actes de courage dispersés, c'était quelque chose d'organisé. Et en 1944-1945, lorsque les Alliés débarquent en France et que la libération de la France commence, De Gaulle va installer un gouvernement provisoire sans attendre même que la France soit entièrement libérée. Et on oublie souvent d'ailleurs que les dernières poches de résistance allemande seront réduites en 45. Le territoire français ne sera véritablement libéré qu'à la toute fin de la guerre. Mais De Gaulle n'attend pas cette libération complète du territoire pour mettre en place des réformes de structure. Et en 1944-1945, ce gouvernement provisoire, où il y a des représentants des partis politiques, mais aussi des figures nouvelles de la politique qui étaient apparues avant-guerre, comme Pierre Mendès France, De Gaulle met en œuvre, avec le gouvernement provisoire, des réformes de grande ampleur qui sont destinées à rebâtir la démocratie. Pour lui, la démocratie, ça doit être, encore une fois, des institutions politiques, mais aussi des institutions administratives, et aussi une vision de la société, création de la sécurité sociale, l'idée de créer une démocratie qui a des bases sociales, une démocratie qui repose sur la solidarité entre les individus. C'est un mouvement général dans le monde qu'on a appelé l'aspiration à l'État-providence, mais pour De Gaulle, ça correspond encore à quelque chose de plus profond, à une tradition française qui est très ancienne. Donc 44-45, ce sont de grandes réformes qui sont mises en œuvre et qui avaient été préparées pendant la guerre par le Conseil national de la résistance, dont Jean Moulin avait été, le préfet Jean Moulin avait été le premier président. Et tout ça se met en place d'une manière très volontaire, alors que rien n'est évident. On sait que les États-Unis, les Américains qui se méfiaient de De Gaulle, auraient voulu installer en fait une organisation politique propre. Ils ont essayé de diffuser leur monnaie, donc De Gaulle a dû se servir de cette administration qu'il reconstituait pour imposer le rétablissement de la circulation d'une monnaie française. La souveraineté, c'est quelque chose qu'il a dû réimposer en 1944-1945 de manière très volontaire. Et donc ces grandes réformes, il y a des réformes sociales profondes, il y a des réformes économiques profondes, des réformes des structures industrielles, et il y a de grandes réformes administratives, puisque De Gaulle va, en particulier, créer le corps des administrateurs civils, qui est destiné à organiser le sommet de l'État, le cadre supérieur de l'État, comme une force homogène. Il crée une institution qui est très controversée aujourd'hui, qui est l'École nationale d'administration. Et pourquoi crée-t-il l'École nationale d'administration ? On a souvent reproché à cette école d'être un moule qui produit des élèves qui se ressemblent. C'était tout à fait l'intention de De Gaulle, c'était de produire un moule et d'avoir une école qui produise des élèves, non pas qui se ressemblent, mais qui avaient les mêmes méthodes. De Gaulle était influencé par une vision assez militaire. Il se disait l'État, c'est une chose, l'administration, c'est une chose lourde. imposante, considérable. Si on veut la mouvoir pour qu'elle soit au service de la collectivité des citoyens, il faut une sorte de force d'état-major, des officiers supérieurs, un peu comme West Point aux États-Unis. Et il faut que ces officiers supérieurs soient formés selon les mêmes méthodes, dans le même esprit, même s'ils ont des origines très différentes. Très, très différentes et des origines sociales très différentes. Donc l'ENA, c'est cela. La création des administrateurs civils, c'est aussi cela. Il faut que dans les administrations de l'État, au sommet, vous ayez un encadrement supérieur qui soit homogène. C'est une idée d'homogénéité qui entraîne l'idée d'efficacité. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sensible à l'idée de la diversité. Pour De Gaulle, la diversité doit être celle des origines. Il faut que des gens d'origines différentes, avec des cultures différentes, viennent servir l'État. Mais par contre, il faut que les méthodes soient communes. Ce côté un peu militaire, au sens d'efficacité, c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres traditions administratives comme cela existe aux États-Unis. De Gaulle a démissionné en janvier 1946, de manière assez curieuse d'ailleurs. Beaucoup ont dit après coup qu'il avait démissionné en espérant qu'on le rappellerait. De Gaulle lui-même, dans les mémoires de guerre, parle du contexte politique qui était devenu extrêmement difficile. Est-ce qu'il est parti parce qu'il pensait qu'il ne pouvait pas mener à bien son œuvre dans l'immédiat à cause du retour en puissance des partis politiques, qu'il fallait qu'il prenne du champ? Ou est-ce qu'il est parti avec un calcul en tête plus profond? Il faut comprendre que De Gaulle était un homme assez secret, qui disait peu de choses sur ses intentions à ses proches, qui parlait peu et qui était toujours extrêmement tacticien. Lorsqu'on lit les Mémoires de guerre, qui est un document assez étonnant, qu'il va publier à partir de 1954, où il raconte toute la période de la guerre, on voit que De Gaulle est quelqu'un qui est extrêmement réfléchi, avec un grand sens psychologique. Donc, son départ en janvier 1946 laisse un petit peu le pays en suspens, puisqu'il a donc réformé profondément l'administration, réformer le système social, mais il abandonne en quelque sorte la France de l'après-guerre, un régime qui retrouve les mêmes défauts que celui de la Troisième République, de la Quatrième République. Et donc il va se retirer provisoirement, il va s'installer rue Solferino, à ce bureau, où il va recevoir pendant des années des personnalités, il va créer un mouvement, le Rassemblement du Peuple Français, qui est un mouvement politique destiné à assurer le jour venu la relève et qui repose sur l'idée que la politique doit être plus qu'un système purement parlementaire, que la démocratie c'est une volonté et que cette volonté doit être portée, incarnée par un exécutif fort, dans un cadre évidemment pleinement démocratique, mais par un exécutif fort. Et l'expérience du peuple français, de la raison... L'expérience du Rassemblement du Peuple Français va durer quelques années, puis va tourner court, et De Gaulle fera ce qu'on appelle la traversée du désert, jusqu'au moment où les événements de la guerre d'Algérie conduiront à le faire revenir sur la scène. Il faut comprendre que De Gaulle, c'est quelqu'un qui ne perd jamais pied dans ses réflexions, et que le temps est court pour comprendre aussi l'idée des projets politique de la vision de l'État de De Gaulle. C'est, pour De Gaulle, l'État, c'est quelque chose qui vient de loin, qui vient des profondeurs de l'histoire de France, qui a commencé à être construit sous l'Ancien Régime, qui s'est construit avec le territoire français, que l'État fait corps avec la France. Et pour De Gaulle, donc, ça vient de loin, et c'est une histoire longue. L'État, c'est la durée. La politique, les événements, c'est du temps court. La 4ème République, c'est dure 12 ans. Elle dure 12 ans. C'est rien, 12 ans, quand on réfléchit aujourd'hui à ce que représente 12 ans dans notre histoire actuelle. 12 ans de vie politique en France aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose de presque insaisissable. Pensons aux 12 dernières années, quel que soit le jugement qu'on porte sur les années qui nous séparent de 2007-2019, quelle que soit la substance que l'on prête à ces années-là, on n'a pas l'impression que ça a la même densité que d'autres périodes de l'histoire. La 4ème République va durer 12 ans seulement et va conduire la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie et être confrontée à ce monde extrêmement dangereux qui émerge avec la confrontation entre le système communiste et le système capitaliste, entre l'Ouest et l'Est. Et De Gaulle observe tout cela quand il est à la tête du Rassemblement du peuple français, et quand il fait sa traversée du désert de quelques années et qu'il se retire dans sa maison de Colombey, où il reçoit toujours des gens. Dans cette pièce, à l'époque du Rassemblement du peuple français en particulier, parce que c'est un des rouages essentiels de ce mouvement, il reçoit régulièrement l'écrivain André Malraux. Donc il faut voir aussi qu'André Malraux, c'est quelqu'un qui a une sorte de vision du monde, des civilisations, qui va bien au-delà de la durée ordinaire d'un régime politique. Donc c'est cela qui est très important de comprendre. Pour De Gaulle, la vie d'un peuple comme la France, la vie d'une société comme la société française, sa vie politique, constitutionnelle, s'inscrivent dans quelque chose de plus profond, qui est un mouvement de l'histoire, qui est une conception du temps qui est beaucoup plus longue. Le présent, ce n'est pas une sorte de tranche qui sépare le passé de l'avenir. Pour lui, l'histoire est quelque chose de vivant qui nourrit le présent et qui déjà commence à brûler l'avenir. Donc il faut voir De Gaulle non pas comme une sorte de figure hiératique prise dans une France un peu dépassée, un homme du 19e siècle, c'est un homme qui est toujours projeté vers l'avenir parce qu'il sait que cet avenir va être fabriqué par de l'histoire vivante. Et que cette histoire vivante, c'est cette histoire qui est celle de la France, de l'Europe et du monde dans les années 50, qui est une histoire incroyable avec ce risque de guerre nucléaire, enfin avec cette situation que le monde n'avait jamais connue et qui est une situation de profonde instabilité, de profonde incertitude. C'est pour ça qu'en 1958, lorsqu'il va revenir au pouvoir à l'occasion des événements d'Algérie et au moment où la France est sur le point de basculer dans une guerre civile, De Gaulle a cette vision mondiale des choses. Il a cette vision du temps qui dépasse le cadre normal de la vie d'une société telle que le simple citoyen ou le simple individu ou le simple homme politique peut le concevoir. Donc quand il revient en 1958, c'est comme s'il reprenait ce qu'il a laissé en plan en 1946. Qu'est-ce qu'il a laissé en plan en 1946 ? Eh bien, il a laissé en plan une France qu'il a commencé à réformer sur le plan de l'administration, sur le plan de la société, du système social, mais qui n'a pas fini de réformer sur le plan politique et constitutionnel. Donc c'est une démocratie inachevée et c'est une démocratie qui vient de montrer une fois de plus ses faiblesses avec la guerre désastreuse en Indochine et avec cette guerre d'Algérie dont elle n'arrive pas à s'extraire, qui est une guerre qui ne ressemble pas aux autres guerres, qui n'est pas une guerre coloniale. Donc pour De Gaulle, il faut passer à autre chose, et il faut en particulier que la France renonce à cette vision décalée de la puissance qu'elle conserve. La France, les Français, contrairement aux Britanniques, sont sortis de la Seconde Guerre mondiale, un peu réconfortés parce qu'ils sont sortis dans le camp des vainqueurs d'un pays. Les Français sont sortis dans le camp des vainqueurs en 1945, d'une guerre qui avait très mal commencé pour eux. Et ils sont sortis de cette guerre, toujours à la tête d'un empire, de cette France de 100 millions d'habitants, qu'ils vont avoir du mal à abandonner. Donc De Gaulle, lorsqu'il revient au pouvoir en 1958, il doit reprendre l'œuvre qu'il a commencée en 1944-1945, l'œuvre de reconstruction de la société, de l'État, de ses élites. Mais il doit aussi convaincre les Français qu'ils doivent passer à une autre étape, que la puissance pour eux ne sera plus de même nature, ils ne seront plus une grande puissance coloniale, ils ne vont plus faire exactement les mêmes choses, mais le ressort de leur puissance, elle viendra de leur capacité à transformer leur économie, à transformer la société et à porter à l'étranger, sur la scène internationale, des valeurs, des principes qui viennent de leur histoire. C'est ce qu'il appelle la grandeur. La grandeur, ce n'est pas une sorte de choses verbeuses ou pompeuses ou une sorte d'attachement irréaliste à un passé révolu. Pour De Gaulle, la grandeur, c'est simplement montrer que la France n'est plus une grande puissance coloniale, que sur le plan politique et militaire, elle a perdu en intensité face à ces énormes monstres que sont devenus la Russie soviétique et les États-Unis, qu'elle a perdu en puissance classique, mais qu'elle a d'autres ressorts dont elle peut tirer parti pour être toujours un grand pays, surtout une grande civilisation et une grande démocratie. C'est toute l'œuvre que De Gaulle va accomplir à partir de 1958, et pour lui, le ressort, c'est l'État. C'est pour ça qu'on retrouve l'État, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, l'État est quelque chose qui est perçu de manière un peu négative, comme quelque chose de tentaculaire, qui entrave la vie des individus. Pour De Gaulle, l'État, s'il est bien organisé, il doit pouvoir transformer la société et porter le destin national de manière efficace et qui sorte de l'ordinaire. Son sujet, c'est de sortir les Français de l'ordinaire. De Gaulle, de cette manière, est peut-être un peu trop exigeant vis-à-vis des individus et vis-à-vis des démocraties, c'est-à-dire peut-être surévalue-t-il la capacité des individus à faire cet effort. C'est peut-être une des faiblesses de De Gaulle de penser qu'un pays qui, en 1958, n'est qu'à 12 ou 13 ans de la guerre, qui a vécu une occupation humiliante, difficile, douloureuse, qui sort à peine, qui a du mal à sortir d'une guerre fratricide et difficile qu'est la guerre d'Algérie, c'est demander beaucoup à des individus, à un peuple qui aspire finalement à la modernité, qui aspire au progrès matériel, qui aspire à une certaine tranquillité, voire peut-être, dirait-on, une certaine médiocrité. Pour De Gaulle, c'est quelque chose qui est difficile à admettre, mais qu'on peut comprendre. Il y a une sorte de décalage entre les exigences que De Gaulle a vis-à-vis de la France et des Français, et ce que les Français peuvent désirer légitimement, c'est-à-dire une forme de bien-être, de tranquillité, une période apaisée après des périodes si difficiles. Mais De Gaulle n'en a cure parce qu'il poursuit son idée et à partir de 1958, il va reprendre le chantier de transformation du pays qui est quelque chose de très résolu chez lui. Il y a un épisode relativement amusant et significatif. En 1959, il va aller voir les élèves de l'ENA. L'ENA a été créé donc une petite quinzaine d'années plus tôt, donc commence à produire des hauts fonctionnaires, commence à entrer... à arriver au poste clé, et il va voir les élèves de la promotion, Vauban, je crois, il va les voir dans leur école, et parmi eux, il y a un certain Jacques Chirac qui est élève, et donc le général de Gaulle vient parler aux élèves de l'ENA, c'est la seule fois d'ailleurs qu'un président de la République, sous la Ve République, vient s'adresser aux élèves, et il leur tient ce discours étonnant, il leur dit « Je vous ai créé cette école, je l'ai créée en 1945, comme un certain nombre d'autres institutions administratives, parce que je voulais que, pour reconstruire la France, nous puissions disposer d'élites bien formées, efficaces et capables de s'adapter aux réalités du monde qui changent tout le temps. » De Gaulle ne parle pas de mondialisation, mais il y pense, c'est un peu l'idée, c'est que le monde est en mutation constante. Et alors, il leur dit, mais finalement le travail est resté en plan, parce que vous avez été créé, vous avez commencé à... être présent dans l'administration, mais notre système politique n'a pas suivi. Nous avons subi la période de la 4e République et nous avons eu un régime politique qui était faible et qui n'a pas pu porter de grandes réformes. Et De Gaulle dit en substance, il ne le dit pas comme je le dis exactement comme ça, il le dit d'une manière plus littéraire et plus élégante, mais il dit maintenant les choses sérieuses vont pouvoir commencer et on va pouvoir travailler puisqu'on a une constitution forte et un système administratif fort. Car effectivement, la constitution de 1958, la constitution de la Ve République, a été conçue par De Gaulle pour conduire le char de l'État dans son ensemble avec énergie. Il a complètement rebâti le système constitutionnel classique en faisant de l'exécutif un élément déterminant du système politique. Et en 1962, au moment où s'achève la guerre d'Algérie, il va y avoir une révision constitutionnelle considérable que De Gaulle va faire ratifier par le peuple français, par référendum, et qui est l'élection du président de la République au suffrage universel. Donc non seulement l'exécutif a retrouvé de la puissance et de l'énergie, mais en 1962, la révision constitutionnelle que De Gaulle impose à une classe politique qui n'en veut pas et fait ratifier par un pays qui, lui, en veut, transforme encore plus nos institutions, puisque le président de la République devient véritablement le personnage clé du système. Dans la Constitution de 1958, à l'origine, le président de la République est élu par un collège élargi. Ça reste des notables. À partir de 1962, il va être élu au suffrage universel. Et De Gaulle lui-même devra affronter le suffrage universel lors de l'élection présidentielle de 1965. Donc il faut voir ce système de la Ve République tel que De Gaulle l'a imaginé comme quelque chose qui vient de loin, qui vient d'une conscience de l'histoire du rôle de l'État en France, qui vient aussi de toutes les transformations qu'il a mises en œuvre à la Libération en 1944-1945. Et maintenant, il arrive, en 1958-1962, à son objectif, c'est-à-dire qu'il a un système cohérent, avec un système politique et constitutionnel fort, reposant sur un exécutif fort, avec la figure émergente qui va être la figure dominante maintenant en France du président de la République, et avec une administration puissante, un système de solidarité sociale qui est bien organisé. Donc, le pays est, dans son esprit, en état de marche. Et en outre, il a réussi la décolonisation. À partir de 1962, même si la fin de la guerre d'Algérie est quelque chose de douloureux et une source de division et de fracture qui demeure encore aujourd'hui très présente dans la conscience française, il n'en reste pas moins que de Gaulle a réussi à faire accepter par les Français, par la société française, cette sorte de transformation très prodigieuse qui est de passer d'un destin impérial, d'un pays qui domine au-delà des mers, un pays qui se replie sur l'hexagone, mais pour retrouver un ressort grâce à des réformes industrielles, grâce à une politique économique extrêmement volontaire. Et l'État va être l'instrument de cette politique extrêmement volontaire dans les années 60, pendant toute la période où De Gaulle est président de la République, c'est-à-dire jusqu'en 1969. Là aussi, c'est une période très courte. C'est une période très courte puisque De Gaulle va être au pouvoir pendant 11 ans, ce qui est strictement la même période, la même durée que celle de l'Empire, 1804-1815. Périodes qui ont une densité particulière et ça va être une période de profonde transformation sur le plan économique, sur le plan industriel, sur le plan de la position française dans le monde, puisque De Gaulle, à la fois grâce à l'arme nucléaire et au retrait de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN, affirme une certaine indépendance de la politique étrangère française qui peut devenir une sorte de puissance médiatrice entre l'Est et l'Ouest, entre le communisme et le monde capitaliste, mais il modernise également en profondeur la France, mais d'une manière quand même très directive, très autoritaire. À l'époque, c'est la planification, donc c'est une pression très forte. Il faut imaginer la France des années 60, c'est une France démocratique. De Gaulle ne respecte que le suffrage universel, il le provoque d'ailleurs par le référendum lorsqu'il le juge nécessaire. Donc, De Gaulle est démocrate. Quand on dit au début de la Ve République qu'il est une figure trop autoritaire, il fait cette fameuse plaisanterie dans une conférence de presse, que ce n'est pas 67 ans qu'il va commencer une carrière de dictateur. Il y a un autre moment où il dit « On me reproche de menacer les libertés publiques, alors que les libertés, c'est moi qui les ai rétablies pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. » Donc il y a cette image un peu trompeuse, De Gaulle est démocrate, la France vit dans une démocratie, mais la société vit sous la pression de l'État. Je crois que c'est très important de le comprendre, vit sous la pression d'un État qui n'a jamais été aussi fort. Une constitution politique très forte, un exécutif très fort, et une administration très active. De Gaulle est entouré d'une armée de hauts fonctionnaires qui l'aide à mettre en œuvre ces réformes avec beaucoup d'énergie parce que De Gaulle veut aller vite. De Gaulle est âgé, De Gaulle pense que le temps joue contre lui. Il sait, parce qu'il connaît l'histoire, que les périodes les plus productives sont les périodes aussi les plus denses, donc il sait qu'il a peu de temps devant lui, et donc la France est réformée à marche forcée. Et je crois que c'est là qu'on trouve une des racines de ce qui va se passer à la fin des années 60, qui n'est pas seulement un phénomène français, c'est une sorte de lassitude. Alors ça existe partout. Ce qui va se passer en 68, c'est quelque chose qui se passe un peu dans le monde entier, une sorte de rébellion, notamment dans une partie de la jeunesse, contre l'émergence de la société de consommation. Mais en France, c'est quelque chose qui est particulier. C'est qu'il faut bien voir que la société française, et notamment la jeunesse, cette jeunesse qui est beaucoup plus nombreuse, qui fait beaucoup plus d'études, et qui attend beaucoup plus de l'avenir, qui attend beaucoup plus de la société, vit dans un pays qui se modernise à marche forcée, avec un État très fort, un système politique, un système administratif très fort. François Mitterrand, qui est le grand adversaire de Gaulle dans les années 60, écrit dans le coup d'État permanent, qui est une charge politique qu'il publie contre De Gaulle en 64, il dit que dans le système gaullien, les hauts fonctionnaires sont comme les régents d'un royaume dont le souverain ne viendra jamais. Ce que veut dire Mitterrand, et ce qui n'est pas faux, c'est que De Gaulle gouverne avec l'État, il gouverne avec l'administration. Certes, il y a un Parlement, certes, il y a des élections, certes, il y a les référendums, certes, c'est une démocratie. Mais est-ce qu'une société dans les années 60, pour qui le souvenir de la guerre s'éloigne, pour qui déjà le souvenir de la guerre d'Algérie s'éloigne, est-ce que cette société, qui est très jeune, qui est pleine d'aspirations, peut supporter une telle pression de l'État? Et 68, ça va être un petit peu la conséquence de cela. pour De Gaulle et pour le système de la Ve République. C'est un petit peu comme si la société française avait été prise dans un étau où elle ne pouvait plus respirer. Non pas parce qu'elle était opprimée, mais parce que on lui infligeait un régime de réforme, un régime de développement qui était peut-être trop fort par rapport à ce que les individus attendaient. Les individus voulaient profiter de la vie, voulaient profiter du progrès, comme le disait De Gaulle, voulaient avoir leur frigidaire, leur télévision, voulaient profiter de ce confort dont ils avaient été privés à cause de la guerre et qui maintenant arrivait sous la forme de la société de consommation. Ce qui est frappant avec mai 68, ce qui est très surprenant en réalité, c'est que la France que je viens de décrire, le système que je viens de décrire, est un système très puissant, un régime politique très fort, très incarné, en plus avec un personnage, De Gaulle, qui est une sorte de mythe vivant, respecté dans le monde entier, enfin, une administration très puissante. Enfin, véritablement, la France donne l'impression de n'avoir jamais été aussi solidement gouvernée qu'elle l'est en 68. Et pourtant, avec mai 68, tout va être à deux doigts de s'effondrer. Illustration de plus du propos de De Gaulle selon lequel la démocratie est fragile. Au départ, un mouvement d'étudiants qui va se grossir d'un mouvement social généralisé dans tout le pays et qui va faire vaciller le pouvoir de De Gaulle au point que, à un moment donné, à la fin du mois de mai, on a le sentiment que De Gaulle a perdu la main et qu'il est très proche de la démission. Et d'ailleurs, sa démission est souhaitée par une partie du milieu politique, est souhaitée par le patronat français qui considère que De Gaulle est devenu un obstacle à ce progrès qu'il a pourtant incarné pendant des années. Et puis, il va y avoir l'épisode fameux et souvent discuté de De Gaulle qui disparaît physiquement. Il part à Baden-Baden sans prévenir son premier ministre, Georges Pompidou, et disparaît pendant deux jours. C'est un petit peu comme le départ de 1946. On ne sait pas exactement ce qu'il a voulu faire. Est-ce qu'il a voulu créer une sorte de suspense pour pouvoir réapparaître et bénéficier d'un effet de surprise? Est-ce qu'il a douté? Est-ce qu'il a hésité à partir? C'est l'hypothèse la plus vraisemblable parce que c'est ce qu'il a dit lui-même après. Il a dit qu'il avait envisagé toutes les hypothèses. Et puis De Gaulle, en définitive, décide de rester, revient, et par un discours le 30 mai 68, qui va entraîner une énorme manifestation sur les Champs-Élysées, tout se dénoue, tout rentre dans l'ordre, et l'État est restauré, après avoir vacillé cet État si puissant. De Gaulle, on peut penser à cette époque qu'il était surpris par 68 et qu'il s'est repris à temps et qu'il a ressaisi, comme il le dira lui-même, il a ressaisi la France après s'être ressaisi lui-même. Mais en réalité, De Gaulle, et c'est quelque chose qui est peu connu ou qui a été oublié aujourd'hui, De Gaulle avait vu venir ce mouvement de société et il était conscient du fait que cette énorme puissance étatique qu'il avait mise en place était plaquée sur une société qui, comme il le disait lui-même, aspirait au bien-être et à une certaine forme de bonheur. De Gaulle est quelqu'un qui ne croit pas au bonheur, parce qu'il croit que la vie des démocraties, c'est d'être exposé aux dangers en permanence, et que le devoir d'un chef d'État, c'est de préparer les démocraties à être armées contre le danger. Et quand on regarde d'ailleurs l'histoire de l'Europe, et l'histoire de la France, et l'histoire du monde depuis 30 ou 40 ans, on se rend compte que ce n'est pas si mal vu, en définitive. Mais enfin, les peuples ont besoin aussi de faire des pauses, de respirer, d'avoir accès au bien-être matériel. Et De Gaulle s'en était rendu compte, et c'est pourquoi, bien avant même 68, mais surtout, alors après 68, pendant sa dernière année de pouvoir, il va essayer d'établir un nouveau rapport avec la société. Il se dit, cet État auquel il tient, parce que pour lui, l'État, c'est tout. Cet État puissant ne fait rien dans un État fort. De Gaulle considère que l'État, c'est l'arme du progrès. Mais il considère que cet État, c'est trop décroché de la société et qu'il doit être plus en état de parler à la société. Mais pour De Gaulle, la société qui est intéressante, c'est la société dynamique. C'est la jeunesse, c'est les étudiants, c'est les chercheurs. Il aime beaucoup le monde de la recherche. C'est les jeunes entrepreneurs. Et cette société-là, ce n'est pas la société des notables qu'il y a dans les départements, dans la France traditionnelle. Donc De Gaulle a tout un projet qu'il avait en tête avant 68 et qu'il va essayer de mettre en œuvre précipitamment, parce qu'il est vieux, parce que le temps lui manque, qu'il va essayer de mettre en œuvre après mai 68, dans un grand projet de référendum qu'il a en tête. Cette idée, c'est de prendre le territoire français et de le transformer et d'en faire la base d'un nouveau rapport entre l'État et la société. Cette France, cette carte de France qu'il a en tête en permanence, qu'il avait devant son bureau quand il était dans ce bureau pendant les années 50, ce bureau qu'il a quitté, dans lequel il n'est jamais revenu après être revenu au pouvoir en 1958, cette carte de France, il se dit qu'il faut la transformer. Il ne veut pas faire de révolution, mais il veut contourner les élites traditionnelles. Et pour lui, les élites traditionnelles, c'est les élites locales qui ne l'ont jamais aimé, les vieilles bourgeoisies du département, des vieilles communes françaises. Et c'est le Sénat, la deuxième chambre, qui est son grand adversaire et qui est le reflet de cette France-là. Donc De Gaulle a un projet qu'il veut mettre en œuvre qui consiste à créer un nouvel échelon qui s'appellera la région. Il veut créer un certain nombre de régions qui seront une nouvelle circonscription d'action publique, pas vraiment décentralisée, mais qui sera un lieu où l'État, à travers le préfet et les services de l'État, pourront dialoguer avec la société à travers des assemblées régionales qui refléteront la société, où il y aura des élus, mais aussi des représentants des organisations patronales, des organisations syndicales, des universités, des familles. Il veut donc créer quelque chose de nouveau. Et dans le même temps, il a une idée qu'il essaie de mettre en œuvre, qu'il a appelée la participation, et qui consiste à transformer progressivement la structure des entreprises pour créer un nouveau rapport de force entre le salarié et l'actionnariat. Il pense qu'un travailleur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a droit à avoir plus de vacances, à être mieux payé, c'est quelqu'un qui a droit à la dignité. Et c'est ce qui est intéressant dans les projets de De Gaulle tels qu'on les lit, tels qu'on les entend dans ce qu'il dit, dans ce qu'il écrit à l'époque, c'est qu'il dit une nouvelle société, un nouveau monde arrive, qui n'arrive pas maintenant, il arrivera dans 10, 15, 20 ans. Nous sommes tous, dit De Gaulle, obsédés par le rapport capitalisme-communisme, mais un jour viendra où le capitalisme sera confronté à ses propres contradictions. Et donc De Gaulle veut préparer la société française à ces transformations en faisant évoluer le statut du travailleur et en faisant évoluer la structure territoriale de la France. Et ce mot de participation, aujourd'hui, il est devenu banal parce qu'on parle de démocratie participative. Et c'est ce que De Gaulle a voulu faire, la démocratie participative. Mais pas du tout cette démocratie participative un peu bavarde dont on parle aujourd'hui et qui est un petit peu, déstructurée. Pour De Gaulle, c'est la participation, c'est un État fort qui discute avec une société qui est reconnue avec, comme il le dit, ses besoins, ses désirs. Et donc ce projet de création des régions, c'est un projet véritablement pour relancer l'action publique, toujours énergique, toujours dynamique, mais en prenant mieux en compte la société. Et c'est ce que De Gaulle va chercher en préparant ce référendum auquel il va rester fortement attaché jusqu'au bout et qui est finalement programmé pour avril 1969. Et De Gaulle va arriver avec ce projet de réforme régionale qui est également accompagné d'un projet de réforme du Sénat, le Sénat devenant non plus une seconde assemblée parlementaire classique, mais une assemblée où vous aurez à la fois des parlementaires et des représentants de la société désignés par les organisations syndicales, désignés par les organisations patronales, émanant de la société et ne passant pas forcément par le mode de l'élection. Et ça, c'est assez révolutionnaire en réalité, et De Gaulle accompagne cela d'un discours qui n'est pas compris par les gens, y compris par son entourage le plus proche. Et on comprend pourquoi. Si aujourd'hui on regarde le projet de loi référendaire que les gens reçoivent chez eux, comme ils recevraient aujourd'hui un projet de loi référendaire si on faisait encore des référendums en France, c'est assez étonnant parce qu'il y a le texte de la réforme dont la ratification est proposée aux Français qui est assez technique avec l'organisation des régions, des assemblées régionales, la nouvelle organisation du Sénat. Mais il y a un exposé des motifs qui était rédigé par De Gaulle de la première à la dernière ligne et qui est un texte philosophique. Et où il dit, il faut faire ces réformes parce que nous allons vers un monde qui sera très différent et où l'individu risque d'être broyé par la machine, ou par ce qu'il ne peut pas appeler évidemment à cette époque la révolution numérique, mais par une nouvelle évolution des technologies, des techniques, de l'économie. Et donc, De Gaulle a vu en réalité, avec une certaine prescience, que le progrès technique, la nouvelle révolution industrielle qui est arrivée, pouvait entraîner une nouvelle forme d'asservissement pour les individus. Il fallait donc réorganiser le territoire, le système politique, pour que la société soit plus en prise là-dessus. Ça, c'est assez étonnant, mais c'est très philosophique. Et les gens n'ont pas compris à l'époque. Et il y a eu, dans cette maison même, il y a longtemps, en 1976, donc c'était quelques années après le départ de De Gaulle, c'était il y a plus de 40 ans, c'était quelques années après le départ de De Gaulle, se sont retrouvés à l'Institut Charles de Gaulle pour débattre de ce référendum de 69 que De Gaulle va perdre, qui va l'écarter du pouvoir, pour débattre de ce qu'avaient été les intentions de De Gaulle. Et alors il y a des universitaires, il y a des chercheurs, il y a des étudiants, et puis il y a des gens qui étaient au pouvoir avec De Gaulle, l'ancien Premier ministre, Boris Kouff de Murville, celui qui était secrétaire général de l'Élysée, Bernard Tricot. Ils disent tous que De Gaulle n'a pas, contrairement à ce qu'on a dit à l'époque, voulu organiser sa sortie comme une sorte de suicide politique dans la beauté et la grandeur, mais qu'il voulait vraiment gagner ce référendum parce qu'il voulait faire des réformes profondes. Mais ces gens qui ont travaillé avec De Gaulle, qui étaient à côté de lui, disent qu'ils ne savent pas exactement quelle était son intention. À l'époque, personne n'a compris exactement ce que voulait De Gaulle. Aujourd'hui, on le comprend quand on relit ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit. Il annonçait le monde dans lequel nous sommes. Il annonçait le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, mais il l'annonçait avec quelques décennies d'avance. Et il n'avait pas vu, évidemment, le caractère propre de cette révolution technologique que nous connaissons aujourd'hui, mais il avait vu que cette révolution à venir pouvait entraîner une nouvelle forme d'asservissement des individus. Et puis il était convaincu, et l'histoire lui a donné raison dès le début des années 90, il était convaincu que le système communiste ne durerait pas et que le capitalisme aurait un triomphe tout à fait illusoire et qu'il serait confronté à ses propres contradictions, au cortège d'injustices qu'il pouvait porter en lui-même. Tout ça était quand même très bien vu. Et c'est ça la dernière année de De Gaulle. Et ce qui est important de comprendre, ce qui est très important de comprendre, parce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui traverse la société, c'est que De Gaulle, en 69, dans ses 50 ans, il y a deux choses fondamentales qui dominent dans son analyse. C'est que, premièrement, pour affronter ce monde nouveau, pour affronter ces révolutions technologiques qui peuvent asservir l'homme à nouveau d'une manière différente, il faut un État fort. Et dans la France d'aujourd'hui, c'est un thème qui n'est pas forcément très porté, ni très populaire, mais l'idée qu'il faut un État fort, qu'il faut une projection de la société dans une puissance publique forte, c'est quelque chose d'important et de très, très, très frappant. Très frappant, et qui vient certainement de cette conscience historique que De Gaulle a, de ce qu'est le destin d'une nation comme la France. Et le deuxième élément qui est très important dans la démarche de De Gaulle en 69, c'est le territoire. C'est-à-dire que De Gaulle considère que cette marche vers un progrès maîtrisé, cette approche de la modernité où l'individu ne renonce pas à dominer son destin, ça doit se faire avec un territoire solidaire. Et les régions, pour De Gaulle, c'est une façon de partager le progrès entre des territoires qui composent la France, qui sont autant de tissus cousus ensemble, mais qui doivent rester solidaires. Et aujourd'hui, qu'a-t-on finalement ? On a une demande d'État qui s'exprime maladroitement, mais à travers des revendications multiples, et on a une demande de solidarité territoriale, le thème de la fracture territoriale. Donc De Gaulle, en quelque sorte, ce vieux monsieur qui arrive avec une voix légèrement cassée devant les Français en 69 avec son référendum improbable, qu'il perd d'ailleurs de peu, ce qui prouve que malgré tout, même si les gens n'ont pas bien compris les enjeux, ils ont senti qu'il y avait un enjeu, et bien De Gaulle qui arrive avec ce référendum improbable et avec ce discours décalé non pas parce qu'il vient du passé mais parce qu'il regarde vers l'avenir, et bien De Gaulle nous parle du monde d'aujourd'hui. Et pour De Gaulle, ce monde qui vient, c'est un monde où l'État, et l'État comme garant des solidarités territoriales, a un rôle important à jouer. Et je trouve que c'est une façon de montrer qu'il y a un message quand même gaullien fort intéressant qui nous vient de notre histoire récente et qui aujourd'hui est très vivant, parce qu'aujourd'hui ce sont les mêmes questions qui se posent. Et ce qu'on appelle le populisme, dans sa grande diversité, en Europe il y a multiples sortes de populisme, et le populisme est d'ailleurs un phénomène qui est apparu aux États-Unis à la fin du 19e siècle, c'est quelque chose de très profond et très complexe, le populisme. Il y a différentes sortes de populisme. Mais en France, il revêt cet aspect de demande d'État, de service public, qui est un petit peu à contre-courant de ce que le système politique dit, quel que soit d'ailleurs ce qu'il dirige, et cette demande aussi, cette crainte d'une fracture territoriale qui est aussi une perte de substance de la civilisation. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a 50 ans, De Gaulle, non pas parce que c'était une sorte de prophète ou de visionnaire totalement surréel, simplement parce que c'était un homme qui avait vécu de manière presque physique les drames de l'histoire, qui savait, ce dont sont faits les rêves des peuples et leurs aspirations, parce qu'il l'avait vu de près, il savait aussi que la démocratie est fragile. Aujourd'hui, nous sommes dedans. C'est-à-dire que nous voyons que notre démocratie est menacée, qu'elle est fragile, et qu'on retrouve toujours les mêmes sujets, l'État, le territoire, et le rapport entre l'État et la société. Et là, il y a quelques clés dont nous pourrions peut-être nous inspirer pour renouveler un débat qui, en France, est comme très marqué par les années 80-90, ultralibéralisme, étatisme, etc., qui est dépassé, parce qu'en réalité, le vrai débat, il s'est posé, la vraie question, elle s'est posée en 1969, elle n'a pas eu de réponse à l'époque, mais aujourd'hui, nous sommes face à la même question, et avec peut-être quelques leçons à tirer pour les réponses.